Chapitre 6. La noble et très ancienne maison des Blacks. Mrs. Wesley les suivit en haut de l'escalier, la mine maussade.
« Je veux que vous alliez directement au lit, pas de bavardage, » dit-elle lorsqu'ils eurent atteint le palier du premier étage. « Nous avons beaucoup de choses à faire demain. »«
Ginny doit sûrement dormir, » ajouta-t-elle à l'adresse d'Hermione. « Alors essaye de ne pas la réveiller. »«
Dormir, tu parles ?» commenta Fred à mi-voix, après qu'Hermione leur eût souhaité une bonne nuit. « Si Ginny n'est pas en train de l'attendre les yeux grands ouverts pour qu'elle lui raconte tout ce qui s'est dit, que je sois transformée en Veracras. »
« Allez, Ron, Harry !»
lança Mrs. Wesley quand ils arrivèrent au deuxième étage.
« Filez au lit !»«
Soir, » dirent Ron et Harry aux jumeaux.
« Dormez bien !»
répondit Fred avec un clin d'œil. Mrs. Wesley referma la porte derrière Harry avec un claquement sec. La chambre paraissait encore plus humide et sinistre que la première fois. La toile vide accrochée au mur respirait très lentement, profondément, comme si son occupant, invisible, était endormi. Harry mit son pyjama, enleva ses lunettes et se glissa dans son lit glacé, tandis que Ron lançait du miamibou sur l'armoire pour calmer Hedwige et Coxigru qui s'agitaient dans un bruissement d'ailes incessant.
« On ne peut pas les laisser sortir chaque nuit pour chasser, » expliqua Ron en mettant son pyjama violet. « Dumbledore ne veut pas qu'il y ait trop de hiboux qui volent autour de la place. Il pense que ça éveillerait les soupçons. Ah, oui, tiens, j'ai oublié. »
Il s'approcha de la porte et ferma le verrou.
« Pourquoi tu fais ça ?»«
À cause de créatures, » répondit Ron en éteignant la lumière. « La première nuit que j'ai passée ici, il est venu se promener dans la chambre à 3 heures du matin. Crois-moi, ça n'a rien d'agréable de te réveiller et de le voir fouiner autour de toi. »
Il se coucha dans son lit, s'installa confortablement sous les couvertures, puis se tourna vers Harry. Dans l'obscurité, Harry distinguait sa silhouette dessinée par la lueur de la lune qui filtrait à travers les vitres sales de la fenêtre.
« Alors, qu'est-ce que tu crois ?»
Harry n'eut pas besoin de lui demander ce qu'il entendait par là.
« Ils ne nous ont pas révélé grand-chose de plus que ce qu'on devinait déjà, » répondit-il en repensant à ce qui s'était dit dans la cuisine. « Tout ce qu'ils ont raconté, c'est que l'ordre essaye d'empêcher les gens de rejoindre vol. » Ron aspira une brusque bouffée d'air.
« De mort !» acheva Harry d'un ton ferme. « Quand donc vas-tu te décider à prononcer son nom ? Sirius et Lupin le font bien, eux ?»
Ron ne fit pas attention à sa remarque.
« Oui, t'as raison, » dit-il. « On savait déjà presque tout grâce aux oreilles à rallonge. La seule chose nouvelle, c'est... Crac ! Aïe ! Tais-toi, Ron, sinon maman va venir voir ce qui se passe. Vous avez transplané sur mes genoux, tous les deux. Ah, c'est plus difficile dans le noir. »
Harry aperçut les deux silhouettes floues de Fred et de George qui sautaient du lit de Ron. Des ressorts grincèrent et le matelas de Harry s'affaissa de quelques centimètres lorsque George vint s'asseoir à ses pieds.
« Alors, vous en êtes déjà à l'essentiel ?» demanda George d'un ton avide. « Tu veux dire l'arme dont a parlé Sirius ?» répondit Harry. « Et il n'en a pas vraiment parlé, il l'a laissé échapper, » dit Fred avec ravissement. Il était assis à présent sur le lit de Ron. « Ça, on n'avait pas entendu dans les oreilles à rallonge. Hein ?»«
À ton avis, qu'est-ce que c'est ?» demanda Harry.
« Oh, ça pourrait être n'importe quoi, » dit Fred. « Il ne peut rien exister de plus terrible que le sortilège d'Avada Kedavra,
non ?» dit Ron.
« Qu'y a-t-il de pire que la mort ?»«
C'est peut-être quelque chose qui permet de supprimer beaucoup de gens d'un seul coup ?»
suggéra George.
« Ou alors une façon de tuer particulièrement douloureuse ?»
dit Ron avec effroi.
« Pour la douleur, il y a déjà le sortilège Doloris, » fit remarquer Harry. « C'est suffisamment efficace. Il n'a pas besoin d'autre chose. »
Il y eut un silence. Harry savait que, comme lui, tout le monde se demandait quelles horreurs cette nouvelle arme pouvait bien provoquer.
« D'après vous, qui est-ce qu'il l'a pour le moment ?» demanda George. « J'espère que c'est nous, » dit Ron un peu inquiet. « Dans ce cas, c'est sans doute Dumbledore qui est chargé de la garder, » déclara Fred. « Où ça ? À Poudlard ?» dit précipitamment Ron. « Je serais prêt à le parier, » assura George. « C'est là qu'il conservait la pierre philosophale. « Une arme, ça doit être plus grand qu'une pierre, » fit remarquer Ron. « Pas forcément, » dit Fred. « La puissance ne dépend pas de la taille, » ajouta George. « Regarde Ginny, par exemple.
« Qu'est-ce que tu veux dire ?» s'étonna Harry. « As-tu t'es jamais pris sur la figure un de ces maléfices de chauve-furie ?»
dit Fred en se levant à moitié du lit. « Écoutez !»
Ils se turent aussitôt. Des bruits de pas montaient l'escalier.
« C'est maman !» dit George.
Il y eut un craquement sonore
et Harry sentit le poids disparaître au bout de son matelas. Quelques secondes plus tard, ils entendirent le parquet grincer derrière la porte. De toute évidence, Mrs. Weasley écoutait pour s'assurer qu'il n'était pas en train de parler. Edwige et Coxigru ululèrent tristement. Le parquet craqua à nouveau, et ils entendirent Mrs. Weasley se diriger vers l'escalier, sans doute pour aller vérifier ce que faisaient Fred et George.
« Elle ne nous fait pas du tout confiance, » dit Ron sur un ton de regret.
Harry savait qu'il ne parviendrait pas à s'endormir. La soirée avait été si riche en événements qu'il passerait sûrement des heures à retourner dans sa tête tout ce qu'il venait de voir et d'entendre. Il aurait bien voulu continuer à parler avec Ron, mais Mrs. Weasley redescendait l'escalier, et lorsqu'elle se fut éloignée, il entendit distinctement d'autres pas monter les marches. En fait, toutes sortes de créatures à pattes trottinaient derrière la porte. Et il entendit Hagrid, le professeur de soins aux créatures magiques, lui dire
« Elles sont magnifiques, pas vrai, Harry ? Ce trimestre, nous allons étudier les armes. »
Harry voyait alors que toutes ces créatures avaient des canons à la place de la tête et qu'elles se tournaient vers lui. Dans un geste instinctif, il se baissait pour les éviter. Et un instant plus tard, il se retrouva pelotonné en boule sous la tiédeur des couvertures tandis que la voix sonore de George résonnait dans la pièce.
« Maman a dit tout le monde debout. Le petit déjeuner vous attend dans la cuisine. Ensuite, elle aura besoin de vous dans le salon. Les doxys sont beaucoup plus nombreux qu'elle ne le pensait et elle a trouvé un nid de boursouf mort sous le canapé. »
Une demi-heure plus tard, Harry et Ron, qui s'étaient dépêchés de s'habiller et de prendre leur petit déjeuner, entrèrent dans le salon du premier étage, une vaste pièce au plafond haut et aux murs vert olive ornés de tapisseries sales. De petits nuages de poussière s'élevaient du tapis chaque fois que quelqu'un posait les pieds dessus, et les longs rideaux de velours couleur vert de mousse bourdonnaient sans cesse comme s'ils avaient été infestés d'abeilles invisibles. Mrs. Weasley, Hermione, Ginny, Fred et George s'affairaient tout autour. Ils s'étaient noués autour de la bouche et du nez un morceau de tissu qui leur donnait un air bizarre et tenaient à la main de gros vaporisateurs remplis d'un liquide noir.
« Couvrez-vous le visage et prenez un pulvérisateur !»
dit Mrs. Weasley à Harry et à Ron dès qu'ils furent entrés. Elle leur montra du doigt deux autres bouteilles de liquide noir posées sur une table aux pieds effilés.
« C'est du doxycide !» « Je n'ai jamais vu une telle invasion de ces bestioles. On se demande ce que cet elfe de maison a bien pu faire au cours des 10 dernières années. »
Le visage d'Hermione était à moitié caché par une serviette, mais Harry vit nettement le regard de reproche qu'elle lança à Mrs. Weasley.
« Créature est très vieux. Il n'a sans doute pas pu. »«
Tu serais surprise de voir ce que créature peut faire quand il le veut, » répliqua Sirius qui venait d'entrer à son tour dans la pièce, chargé d'un sac taché de sang apparemment rempli de rats morts. « Je viens d'aller donner à manger à Buck, » ajouta-t-il en réponse au regard interrogateur de Harry. « Je l'ai installé là-haut dans la chambre de ma mère. »« Bon, voyons un peu ce secrétaire. »
Il posa le sac de rat mort sur un fauteuil, puis se pencha pour examiner le secrétaire fermé à clé. Pour la première fois depuis qu'il était arrivé, Harry remarqua que le meuble remuait légèrement.
« Tu sais, Molly, je suis presque sûr qu'il s'agit d'un épouvantard. » dit Sirius en regardant par le trou de la serrure. « Mais il faudrait peut-être que Folleuil voie ça de plus près avant qu'on le laisse sortir. Connaissant ma mère, c'est peut-être quelque chose de bien pire. »
« Tu as raison, Sirius, »
approuva Mrs. Weasley.
Tous deux prenaient soin de parler d'un ton poli, léger, qui indiquait clairement à Harry que ni l'un ni l'autre n'avaient oublié leur dispute de la veille. Une cloche au son clair retentit au rez-de-chaussée, aussitôt suivie par la même cacophonie de hurlements et de lamentations que Tonk avait provoquée la veille en renversant le porte-parapluie.
« Je n'ai pourtant pas arrêté de leur répéter de ne pas actionner la cloche !»
s'exclama Sirius exaspéré. Il se précipita hors de la pièce et dévala l'escalier tandis que les cris de Mrs. Black résonnaient une fois de plus dans toute la maison.
« Opprobre et déshonneur ! Immonde bâtard ! Traître à votre sang ! Enfant indigne !
Ferme la porte, s'il te plaît, Harry !»
dit Mrs. Weasley. Harry prit le plus de temps possible pour repousser la porte du salon. Il voulait écouter ce qui se passait au rez-de-chaussée. Sirius avait dû réussir à refermer les rideaux sur le portrait de sa mère car elle avait cessé de hurler. Il entendit les pas de Sirius dans le hall, puis la chaîne de la porte d'entrée cliqueta et la voix profonde de Kingsley Shacklebolt retentit.
Estia vient de prendre ma relève, dit-il. C'est donc elle qui a la cape de Maugret pour le moment. J'ai pensé que je ferais bien de laisser un rapport à Dumbledore.
Sentant le regard de Mrs. Weasley fixé sur sa nuque, Harry ferma à regret la porte du salon et rejoignit les chasseurs de Doxys. Mrs. Weasley était penchée sur le livre de Gilderoy Lockhart intitulé « Le guide des créatures nuisibles » qu'elle avait posé sur le canapé, ouvert à la bonne page.
« Faites bien attention, vous tous. Les Doxys peuvent mordre et leurs dents sont venimeuses. J'ai un flacon d'antidote, mais j'aimerais mieux que personne n'ait à s'en servir. »
Elle se redressa, alla se poster devant les rideaux et fit signe aux autres d'approcher.
« À mon signal, vous commencerez tout de suite à pulvériser, » dit-elle. « Ils vont sûrement se précipiter sur nous, mais d'après ce qui est écrit sur les bouteilles, un bon jet de liquide devrait suffire à les paralyser. Quand ils seront immobilisés, jetez-les dans le seau. »
Elle fit un pas prudent pour se mettre hors de portée de la ligne de tir et brandit sa propre bouteille.
« Prêt ? Allez-y !»
Harry avait actionné son vaporisateur depuis quelques secondes seulement lorsqu'un doxy de bonne taille surgit d'un pli du rideau. Ses ailes brillantes, comme la carapace d'un scarabée, bourdonnaient. Ses dents minuscules, semblables à des aiguilles, étaient largement découvertes et ses petits poings se crispaient de fureur. Harry lui envoya un jet de doxycide en visant la tête. La créature s'immobilisa en plein vol et tomba sur le tapis usé en produisant un bong surprenant. Harry le ramassa et le lança dans le seau.
« Fred, qu'est-ce que tu fais ?»
demanda sèchement Mrs. Weasley.
« Arrose-le tout de suite et jette-le !»
Harry se tourna vers lui. Fred tenait entre le pouce et l'index un doxy qui se débattait.
« Dac !»
dit-il d'une voix claironnante en envoyant à la créature un jet en pleine tête. Mais dès que Mrs. Weasley eut le dos tourné, il le glissa rapidement dans sa poche avec un clin d'œil à Harry.
« On veut faire des expériences avec du venin de doxy pour nos boîtes à flemme, » expliqua George à voix basse.
Tout en aspergeant avec dextérité les deux doxys qui fonçaient droit sur son nez, Harry se rapprocha de George et murmura du coin des lèvres.
« Et qu'est-ce que c'est, des boîtes à flemme ?»«
Un choix de sucreries qui rendent malade, »
chuchota George en surveillant d'un œil prudent le dos de Mrs. Weasley.
« Pas très malade, hein, bien sûr, hein, juste assez pour être dispensé des cours quand on en a envie. Avec Fred... » On y a travaillé tout l'été. Chaque friandise comporte deux moitiés de couleurs différentes. Par exemple, si tu manges la partie orange d'une pastille de gerbe, tu te mets à vomir. Dès qu'on t'a envoyé à l'infirmerie, tu avales la partie violette,
qui te remet aussitôt d'aplomb. Tu peux alors te livrer à l'activité de ton choix, au lieu de passer une heure à t'ennuyer en pure perte.
C'est ce qu'on explique dans nos publicités, murmura Fred.
Il s'était glissé hors du champ de vision de Mrs. Weasley et ramassait sur le tapis quelques doxys inanimés qu'il s'empressa de fourrer dans sa poche.
« Mais c'est pas encore tout à fait au point. Jusqu'à maintenant, nos cobayes ont eu du mal à s'arrêter de vomir suffisamment longtemps pour avaler la moitié violette de la pastille. »«
Les cobayes ?
Ben nous, » précisa Fred, « nous faisons ça à tour de rôle. George a essayé les petits fours tourneaux de l'œil et nous avons expérimenté tous les deux le nougat né en sang. »«
Maman croyait que nous nous étions battus en duel, » dit George.
« Le magasin de farce et attrape marche toujours alors ?»
murmura Harry qui faisait semblant d'ajuster le bouchon de son vaporisateur.
« Nous n'avons pas encore trouvé de local, » répondit Fred,
en baissant la voix un peu plus pendant que Mrs. Weasley s'épongeait le front avec son foulard avant de repartir à l'attaque.
« Et donc, pour le moment, on fait de la vente par correspondance. On a passé une publicité dans la Gazette du Sorcier la semaine dernière. « Tout ça grâce à toi, mon vieux, » dit Georges. « Mais ne t'inquiète pas, hein. Maman ne se doute de rien. Elle ne lit plus la Gazette parce qu'elle raconte des mensonges sur toi et Dumbledore. »
Harry eut un sourire. Il avait obligé les jumeaux Weasley à prendre les 1000 galions qu'il avait gagnés en remportant le tournoi des trois sorciers afin de les aider à réaliser leur rêve d'ouvrir un magasin de farces et attrapes. Il était content, cependant, que Mrs. Weasley ne soit pas encore au courant du rôle qu'il avait joué dans l'avancement du projet. Elle estimait en effet que le commerce des farces et attrapes ne constituait pas une carrière convenable pour ses enfants. La dédoxisation des rideaux occupa la plus grande partie de la matinée. Il était plus de midi lorsque Mrs. Weasley ôta enfin le foulard qui lui protégeait le visage. Elle se laissa tomber dans un fauteuil et se releva aussitôt en poussant un cri de dégoût. Elle s'était assise sur le sac de rat mort. Les rideaux avaient cessé de bourdonner. Ils pendaient, flasques et humides, imbibés par la vaporisation intensive. Des doxys inertes étaient entassés dans un seau à côté d'un bol rempli de leurs œufs noirs que Patanron flairait avec curiosité et auxquels Fred et George jetaient des regards de convoitise.
Nous nous occupons de cela après déjeuner. »
Mrs. Wesley montra du doigt les armoires vitrées couvertes de poussière qui se dressaient de chaque côté de la cheminée. Elles étaient encombrées d'un étrange assemblage d'objets. Poignards rouillés, griffes, peaux de serpents levées, boîtes en argent terni portant des inscriptions dans des langues inconnues de Harry et, pire que tout, une bouteille en cristal au bouchon incrusté d'une grosse opale dont Harry eut la certitude qu'elle était remplie de sang. La cloche de la porte d'entrée retentit à nouveau. Les regards se tournèrent vers Mrs. Wesley.
« Restez ici !» dit-elle d'un ton décidé en prenant le sac de rat mort tandis que Mrs. Black se remettait à hurler. « Je vais vous apporter des sandwichs. »
Elle quitta la pièce et referma soigneusement la porte derrière elle. Tout le monde se précipita aussitôt vers la fenêtre pour regarder ce qui se passait sur le perron. Ils virent le sommet d'une tignasse rousse, mal peignée et un tas de chaudrons à l'équilibre précaire.
« Mandagus !» dit Hermione. « Pourquoi apporte-t-il tous ces chaudrons ?»«
Il cherche sans doute un endroit sûr pour les entreposer, » répondit Harry. « Ce n'est pas ça qu'il était parti faire le soir où il devait me surveiller ?» Aller chercher des chaudrons d'origine douteuse ?
C'est vrai, t'as raison,
dit Fred. La porte de la maison s'ouvrit. Mandingus entra chargé de ses chaudrons et disparut de leur champ de vision.
Eh ben, dit-on, ça va pas plaire à maman,
commenta Fred. George et lui s'approchèrent de la porte de la chambre et restèrent là, l'oreille tendue. Les hurlements de Mrs. Black avaient cessé.
Mandingus est en train de parler avec Sirius et Kingsley, murmura Fred, le visage concentré. J'entends pas très bien. « Tu crois qu'on peut risquer les oreilles à rallonge ?»«
Ça vaut peut-être le coup, dit Georges. Je pourrais filer là-haut en chercher une paire. »
Mais à cet instant précis, il y eut au rez-de-chaussée une véritable explosion sonore qui rendit inutile le recours à tout artifice. Ils entendaient distinctement à présent ce que criait Mrs. Wesley de toute la puissance de sa voix.
« Ce n'est pas une cachette pour objets volés ici !»
« J'aime beaucoup entendre maman hurler contre quelqu'un d'autre, » dit Fred avec un sourire satisfait. « Ça change agréablement. »
Il entr'ouvrit la porte de quelques centimètres pour que la voix de Mrs. Wesley leur parvienne plus facilement.
« Complètement irresponsable! Vous croyez que nous n'avons pas suffisamment de soucis comme ça sans qu'il soit besoin de vous voir arriver avec un chargement de chaudrons volés ?»«
Ces idiots la laissent s'échauffer, » commenta George en hochant la tête. « Il faut l'arrêter tout de suite, sinon la vapeur s'accumule et ça peut durer des heures. En plus, elle mourait d'envie de s'attaquer à Mandingus depuis le jour où il s'est éclipsé au lieu de te surveiller, Harry.
« Tiens, la mère de Sirius s'y remet, elle aussi. »
La voix de Mrs. Wesley fut étouffée par les nouveaux hurlements des portraits du hall. George s'apprêtait à refermer la porte pour atténuer le vacarme lorsqu'un elfe de maison se glissa par l'entrebâillement et pénétra dans la pièce. En dehors du chiffon crasseux noué autour de sa taille à la manière d'un pagne, il était complètement nu. Il avait l'air très vieux, sa peau semblait beaucoup trop grande pour lui, et bien qu'il fût chauve, comme tous les elfes de maison, de grosses touffes de poils blancs sortaient de ses oreilles semblables à celles d'une chauve-souris. Ses yeux d'un gris larmoyant étaient injectés de sang et son gros nez charnu avait plutôt la forme d'un groin. L'elfe ne prêta aucune attention à Harry, ni aux autres, comme s'il ne les voyait pas. Il s'avança en traînant des pieds, le dos voûté, et se dirigea d'un pas lent et obstiné vers le fond de la pièce, en marmonnant sans cesse d'une voix rauque et grave qui ressemblait au coassement d'un crapaud.
« Il a une odeur d'égout et en plus c'est un bandit, mais l'autre ne vaut pas mieux. Cette horrible vieille bonne femme traître à son sang avec ses sales gosses qui viennent semer la pagaille dans la maison de ma maîtresse. » Oh, ma pauvre maîtresse! Si elle savait quelle vermine est entrée dans sa demeure, que dirait-elle à ce pauvre créature? Oh, quelle honte des champs de bourbe, et des loups-garous, et des traîtres, et des voleurs! Pauvre vieux créature, que peut-il faire?
« Bonjour, créature !» lança Fred d'une voix claironnante en fermant la porte avec un claquement sec. L'elfe de maison se figea sur place. Il cessa de marmonner et sursauta dans une réaction de surprise trop appuyée pour être convaincante.
« Oh, créature n'a pas vu le jeune maître !»
dit-il en se tournant pour s'incliner bien bas devant Fred. Le nez face au tapis, il ajouta d'une manière parfaitement audible «
Un sale petit gamin, celui-là, fils de traîtresse infidèle à son sang.
Pardon, dit Georges. J'ai pas très bien compris la dernière phrase.
Créature n'a rien dit,
affirma l'elfe en s'inclinant une deuxième fois devant Georges. Il ajouta à haute et intelligible voix.
Et voilà son jumeau. Des sales bêtes, contre nature, ces deux-là.
Harry ne savait pas s'il fallait rire ou non. L'elfe se redressa en leur jetant à tous un regard hostile, puis, apparemment convaincu qu'il ne pouvait l'entendre, il continua de marmonner.
« Et la sang de bourbe qui est toujours là à faire sa fière. Oh, si ma maîtresse savait, oh, comme elle pleurerait. Et en voilà un nouveau. Créature ignore son nom. Qu'est-ce qu'il fait ici? Créature n'en sait rien du tout. »
« Voici Harry, créature !» risqua Hermione. « Harry Potter !»
Les yeux pâles de l'elfe s'agrandirent et il se mit à marmonner plus vite et plus furieusement que jamais.
« La sang de bourbe parle à la créature comme si elle était son amie. Si la maîtresse de créature le voyait en si mauvaise compagnie, oh, que dirait-elle ?»«
Ne l'appelle pas sang de bourbe !» protestèrent Ron et Ginny avec colère.
« Ça n'a pas d'importance !» murmura Hermione. Il n'a pas toute sa tête et il ne sait pas ce qu'il...
Ne t'imagine pas ça, Hermione. Il est parfaitement conscient de ce qu'il dit, assura Fred en lançant un regard de dégoût à créature. L'elfe marmonnait toujours, les yeux tournés vers Harry.
Est-ce vrai? Est-ce vraiment Harry Potter? Créature, voilà la cicatrice. Ce doit être vrai. C'est lui qui a fait échec au Seigneur des Ténèbres. Créature se demande comment il s'y est pris.
On se le demande tous, créature, dit Fred.
« Et au fait, qu'est-ce que tu veux ?» demanda Georges.
Les yeux immenses de l'elfe se posèrent aussitôt sur Georges.
« Créature, fais le ménage !»
dit-il d'un ton vague.
« Et tu penses qu'on va te croire ?»
tonna une voix derrière Harry. Sirius était revenu et regardait l'elfe avec des yeux flamboyants de colère. Dans le hall, le tumulte s'était apaisé. Peut-être Mrs. Weasley et Mondingus étaient-ils allés poursuivre leur dispute dans la cuisine. En voyant Sirius, créature dans une attitude ridicule, s'inclina si bas que son nez en forme de groin s'écrasa sur le tapis.
« Tiens-toi droit !» ordonna Sirius, agacé. « Qu'est-ce que tu fabriques ici ?»«
Créature fait le ménage !» répéta l'elfe. « Créature ne vit que pour servir la noble maison des Blacks !»«
Et la noble maison devient de plus en plus ignoble chaque jour !» « C'est une saleté repoussante ici, » répliqua Sirius.
« Le maître a toujours aimé plaisanter, »
reprit créature en s'inclinant à nouveau. Il poursuivit à mi-voix.
« Le maître est un sale pourceau ingrat qui a brisé le cœur de sa mère. »«
Ma mère n'avait pas de cœur, créature, » répondit sèchement Sirius. « Seule la rancœur la faisait vivre. »
Créature s'inclina une fois de plus.
« Le maître dit ce qu'il veut, »
grommela-t-il avec fureur.
« Le maître n'est pas digne d'essuyer la boue des bottes de sa mère. Oh, ma pauvre maîtresse! Que dirait-elle si elle voyait créature le servir, lui? Oh, comme elle le haïssait! Quelle déception il représentait pour elle !»
« Je t'ai demandé ce que tu fabriquais ici !» coupa Sirius avec froideur. « Chaque fois que tu te montres en prétendant faire le ménage, tu dérobes quelque chose et tu vas le mettre dans ta chambre pour qu'on ne puisse pas le jeter. »«
Créature, n'enlèverai jamais rien de la place qui est la sienne dans la maison du maître !»
assura l'elfe. Puis il marmonna précipitamment.
« La maîtresse ne pardonnerait jamais à créature que quelqu'un jette la tapisserie. 7 siècles, elle est restée dans la famille. Créature doit la sauver. Créature ne laissera pas le maître, ni ceux qui ont trahi leur sang, ni les sales gosses la détruire. »
« Je pensais bien que c'était ça, » dit Sirius en regardant avec dédain le mur d'en face. « Elle a sûrement jeté un autre maléfice de clou perpétuel pour qu'on ne puisse pas la décrocher. Et si j'arrive à m'en débarrasser... « Je ne m'en priverai pas. Et maintenant, va-t'en, créature. »
Apparemment, l'elfe n'osait pas désobéir à un ordre direct. Mais le regard qu'il lança à Sirius en passant devant lui, de son pas traînant, exprimait la plus profonde répugnance, et tout au long du chemin qui le séparait de la porte, il ne cessa de marmonner.
Je reviens d'Azkaban et donne des ordres à créature. Oh, ma pauvre maîtresse, que dirait-elle si elle voyait la maison à présent pleine de cette vermine, ses trésors jetés aux ordures? Elle jurait que ce n'était pas son fils. Le voilà de retour. On dit aussi que c'est un assassin.
Continue à marmonner comme ça et je ne vais pas tarder à devenir un véritable assassin! S'exclama Sirius d'un ton exaspéré en claquant la porte derrière l'elfe.
Sirius, il n'a pas toute sa tête, plaida Hermione. À mon avis, il ne s'aperçoit pas qu'on entend ce qu'il dit.
Il est resté seul trop longtemps à obéir aux ordres déments du portrait de ma mère et à parler tout seul, répondit Sirius. Mais de toute façon, il a toujours été un horrible petit.
Si vous lui donniez sa liberté,
suggéra Hermione avec espoir,
peut-être que...
Impossible de le libérer. Il sait trop de choses sur l'ordre,
répliqua sèchement Sirius.
Et d'ailleurs, le choc le tuerait. Propose-lui de quitter la maison, tu verras comment il réagira.
Sirius s'approcha du mur auquel était accrochée sur toute sa surface la tapisserie que Créature tenait tant à protéger. Harry et les autres le rejoignirent. La tapisserie paraissait très ancienne, elle était décolorée et on aurait dit que des doxys l'avaient grignotée par endroits. Mais le fil d'or avec lequel elle avait été brodée continuait de briller suffisamment pour qu'on puisse voir un arbre généalogique aux multiples ramifications qui remontaient, autant que Harry pouvait en juger, au Moyen-Âge. Tout en haut de la tapisserie était écrit en grosses lettres « La noble et très ancienne maison des Blacks, toujours pure ».
« Tu n'y es pas ?» remarqua Harry après avoir examiné le bas de l'arbre.
« J'y étais ». répondit Sirius en montrant un petit trou rond, au bord noirci qui ressemblait à une brûlure de cigarette. « Mais ma chère vieille mère m'a effacé d'un coup de baguette lorsque je suis parti de la maison. Créature aime beaucoup raconter l'histoire quand il parle tout seul. »«
Tu t'es enfui de la maison ?»«
Quand j'ai eu 16 ans, j'en avais assez. »«
Où es-tu allé ?» demanda Harry en le regardant avec de grands yeux.
« Chez ton père, » dit Sirius. « Tes grands-parents ont été très gentils avec moi. » D'une certaine manière, ils m'ont considéré comme leur deuxième fils. Je suis allé camper chez eux pendant les vacances scolaires et quand j'ai eu 17 ans, j'ai pris une maison à moi. Mon oncle Alfar m'avait laissé une assez belle quantité d'or. Lui aussi, on l'a enlevé de l'arbre, sans doute à cause de ça. Et à partir de cette époque, j'ai pu vivre par mes propres moyens. Mais j'ai toujours été invité à déjeuner le dimanche chez Monsieur et Madame Potter.
Et pourquoi es-tu
parti ?
Sirius eut un sourire amer et passa ses doigts dans ses longs cheveux emmêlés.
Parce que je les haïssais tous. Mes parents, avec leur manie du sang pur, qui étaient convaincus qu'être un Black donnait quasiment un rang royal. Mon idiot de frère, suffisamment bête pour les croire. Tiens, c'est lui.
Sirius tapota de l'index le bas de l'arbre généalogique à l'endroit qui portait le nom de Régulus Black. La date de sa mort, une quinzaine d'années auparavant, suivait sa date de naissance.
« Il était plus jeune que moi, » reprit Sirius, « et un bien meilleur fils, comme on ne manquait jamais de me le faire observer. »«
Mais il est mort, » dit Harry.
« Ouais, imbécile. Il s'est enrôlé dans les manches morts. »«
Tu plaisantes ?»
« Allons, Harry. Tu as vu suffisamment de choses dans cette maison pour savoir quel genre de famille vivait ici, non ?»
répliqua Sirius avec mauvaise humeur.
« Et tes parents aussi étaient des mange-morts ?»«
Non, non. Mais crois-moi, ils approuvaient les idées de Voldemort. Ils étaient tous partisans de purifier la race des sorciers, de se débarrasser de ceux qui venaient de familles moldues et de mettre les sangs purs. » Au pouvoir. Ils n'étaient d'ailleurs pas les seuls. Beaucoup de gens, avant que Voldemort montre sa vraie nature, étaient persuadés qu'il avait raison. Ils ont été un peu refroidis en voyant ce qu'il était prêt à faire pour prendre le pouvoir. Mais au début, quand il s'est engagé, je suis sûr que mes parents voyaient en Régulus un brave petit héros.
Il a été tué par un aurore ?
Demanda Harry d'une voix hésitante.
« Oh non !» répondit Sirius. « Non ! Il a été assassiné par Voldemort,
ou sur ordre de Voldemort, plus vraisemblablement. Je doute que Régulus ait jamais été assez important pour que Voldemort se donne la peine de le tuer lui-même. D'après ce que j'ai su après sa mort, il l'a suivi jusqu'à un certain point. Puis, il a été pris de panique devant ce qu'on lui demandait de faire, et il a essayé de se retirer. Mais on ne quitte pas Voldemort en lui écrivant une simple lettre de démission. Avec lui, il faut servir ou mourir.
« Le déjeuner est prêt !» annonça la voix de Mrs. Weasley.
Elle tenait à bout de bras sa baguette magique sur laquelle reposait en équilibre un énorme plateau chargé de sandwichs et de gâteaux. Le teint écarlate, elle semblait toujours en colère. Les autres s'approchèrent d'elle, affamés, mais Harry resta à côté de Sirius, qui s'était penché sur la tapisserie.
« Ça fait des années que je ne l'ai pas regardé. Voilà Phineas Nigellus, mon arrière-arrière-grand-père, tu vois ?» Le directeur le moins aimé de toute l'histoire de Poudlard. Et là, c'est Araminta Mellifluard, une cousine de ma mère. Elle a essayé de faire passer une loi au ministère pour autoriser la chasse aux moldus. Et cette chère tante, elle l'adora. C'est elle qui a inauguré la tradition de décapiter les elfes de maison quand ils étaient trop vieux pour porter les plateaux de thé. Bien entendu... Chaque fois qu'un membre de la famille se révélait à peu près fréquentable, il était renié. Je vois que Tonk n'est pas là, c'est sans doute pour ça que Créature refuse de lui obéir. Il est censé faire tout ce que lui demandent les membres de la famille.
Tu es parent avec Tonk, s'étonna Harry.
Oh oui. Andromeda, sa mère, était ma cousine préférée,
répondit Sirius en examinant attentivement la tapisserie.
Non, Andromeda n'est pas là non plus, regarde.
Il montra un autre petit trou entre les noms de Bellatrix et Narcissa.
Les sœurs d'Andromeda y sont toujours parce qu'elles se sont mariées à de charmants et respectables sangs purs. Mais Andromeda a épousé un sorcier d'origine moldue. Ted Tonk, alors.
Sirius mima le geste par lequel on avait brûlé le nom d'un coup de baguette magique, puis il eut un rire amer. Harry, en revanche, ne riait pas. Il était trop occupé à lire les noms qui figuraient à droite de la marque noircie d'Andromeda. Un double trait brodé d'or liait Narcissa Black à Lucius Malfoy, et une ligne verticale unique menait au nom de Drago.
« Tu es parent avec les Malfoy ?»«
Les familles de sang pur sont toutes parentes, » expliqua Sirius. « Si tu ne laisses tes enfants se marier qu'avec d'autres sang purs, le choix devient vite très limité. » Nous ne sommes plus très nombreux. Molly est ma cousine par alliance. Arthur est quelque chose comme mon deuxième cousin au deuxième degré. Mais inutile de les chercher sur cet arbre. S'il y a jamais eu une famille qui soit considérée comme traître à son sang, c'est bien les Weasley.
Mais Harry regardait à présent le nom qui figurait à gauche de la marque d'Andromeda. Bellatrix Black était reliée par un double trait à Rodolphus Lestrange.
Lestrange ?
Lut Harry à haute voix. Le nom évoquait quelque chose dans sa mémoire. Il avait déjà entendu quelque part, mais pour le moment, il ne pouvait se rappeler où. Une étrange sensation s'insinua cependant au creux de son estomac.
Ils sont à Azkaban, dit sèchement Sirius.
Harry le regarda avec curiosité.
Bellatrix et son mari Rodolphus y sont entrés en même temps que Barty Croupton Junior, poursuivit Sirius du même ton brusque. Rabastan, le frère de Rodolphus, était également avec eux.
Harry retrouva alors la mémoire. Il avait vu Bellatrix Lestrange dans la pensine de Dumbledore, l'étrange objet dans lequel on pouvait conserver ses pensées et ses souvenirs. Une grande femme brune, avec des paupières lourdes, qui avait comparu devant le tribunal en proclamant sa fidélité à Voldemort, sa fierté d'avoir tenté de le retrouver après sa chute et sa conviction qu'elle serait un jour récompensée de sa loyauté.
Tu ne m'as jamais dit qu'elle était...
Quelle importance qu'elle soit ma cousine, répliqua brutalement Sirius. En ce qui me concerne, je ne les considère pas comme ma famille. Elle, particulièrement. Je ne l'ai pas revue depuis que j'avais ton âge, sauf si on compte le bref instant où je l'ai aperçue le jour de son arrivée à Azkaban. Tu crois vraiment que je suis fier d'avoir une parente comme elle?
Désolé, dit précipitamment Harry. Je ne voulais pas...
J'étais simplement surpris, c'est tout.
Ça n'a pas d'importance. Ne t'excuse pas, grommela Sirius. Les mains enfoncées dans ses poches, il se détourna de la tapisserie.
« Je n'aime pas être ici, » dit-il en contemplant le salon. « Je n'avais jamais pensé que je serais un jour à nouveau enfermé dans cette maison. »
Harry le comprenait parfaitement. Il savait ce que lui-même ressentirait si, devenu adulte, il était obligé de retourner vivre au 4 Private Drive après avoir cru en être libéré à tout jamais.
« Bien sûr. C'est idéal pour installer un quartier général, » dit Sirius. Lorsqu'il y habitait, mon père a doté la maison de tous les systèmes de sécurité connus dans le monde de la sorcellerie. Elle est incartable, et donc les moldus ne pourraient jamais la localiser, comme s'ils en avaient envie. Et maintenant que Dumbledore a ajouté sa propre protection, on aurait du mal à trouver une maison plus sûre. Dumbledore est le gardien du secret au sein de l'ordre, ce qui signifie que personne ne peut découvrir le quartier général s'il ne lui révèle pas personnellement son emplacement. Ce petit mot que Maugrey a montré hier soir était de la main de Dumbledore.
Sirius eut un rire bref, semblable à un aboiement.
Si mes parents pouvaient voir à quoi sert leur demeure à présent. Le portrait de ma mère te donne une idée de ce qu'ils en penseraient.
Il fronça les sourcils, puis soupira.
Ça me serait égal si au moins j'avais la possibilité de sortir un peu de temps en temps pour faire quelque chose d'utile. J'ai demandé à Dumbledore si je pouvais t'accompagner au ministère le jour de ton audience, sous la forme de Sniffle, bien sûr, pour t'apporter un peu de soutien moral. Qu'en penses-tu ?
Harry sentit soudain son estomac chavirer. Il n'avait plus pensé à sa convocation depuis le dîner de la veille. La joie de revoir les êtres qui lui étaient le plus cher et l'excitation de savoir enfin ce qui se passait l'avait complètement chassé de son esprit. En entendant les paroles de Sirius, la peur l'accabla à nouveau. Il regarda Hermione et les Weasley, tous occupés à manger leur sandwich, et se demanda ce qu'il éprouverait s'il retournait à Poudlard sans lui.
« Ne t'inquiète pas, » dit Sirius.
Harry leva les yeux et s'aperçut que Sirius l'observait.
« Je suis sûr qu'ils t'innocenteront.
Il y a bel et bien dans le Code international du secret magique un article qui autorise l'usage des sortilèges si ta vie est menacée. Mais s'il me renvoie quand même, dit Harry à voix basse. Est-ce que je pourrais revenir ici et vivre avec toi ?
Sirius eut un sourire triste. On verra.
J'aurais beaucoup moins peur de cette audience si j'étais sûr de ne pas être obligé de retourner chez les Dursley, insista Harry.
Ils doivent être vraiment terribles si tu préfères vivre ici, remarqua Sirius d'un air sombre.
Dépêchez-vous tous les deux. Sinon, il n'y aura plus rien à manger, leur lança Mrs. Weasley.
Sirius poussa à nouveau un profond soupir, jeta un regard noir à la tapisserie, puis rejoignit les autres en compagnie de Harry. Cet après-midi-là, Harry fit de son mieux pour ne pas penser à sa convocation au ministère pendant le temps qu'ils passèrent à vider les armoires vitrées. Fort heureusement, ce travail exigeait une très grande concentration, car la plupart des objets contenus dans le meuble n'avaient pas la moindre envie de quitter leurs étagères poussiéreuses. Sirius se fit mordre cruellement par une tabatière en argent. En quelques secondes, une sorte de croûte repoussante lui recouvrit la main, tel un gant dur et marron.
« Ce n'est rien, » dit-il en examinant sa main d'un air intéressé avant de lui donner un petit coup de baguette magique qui lui rendit une peau normale. « Il doit y avoir de la poudre à verrue là-dedans. »
Il jeta la boîte dans le sac où il rassemblait le bric-à-brac trouvé dans les armoires. Quelques instants plus tard, Harry vit George envelopper sa propre main dans un chiffon et glisser la tabatière dans sa poche déjà remplie de doxys. Ils découvrirent un instrument en argent d'aspect assez déplaisant, une sorte de pince à épiler pourvue de nombreuses pattes qui se mit à courir comme une araignée le long du bras de Harry et essaya de lui percer la peau. Sirius attrapa l'objet et l'écrasa avec un lourd volume intitulé « Noble par nature, une généalogie des sorciers ». Il y avait également une boîte à musique, d'où s'élevait une mélodie aigrelette et un peu sinistre lorsqu'on la remontait. En l'entendant, ils se sentirent étrangement faibles et somnolents jusqu'à ce que Ginny ait le bon sens de refermer le couvercle. Ils trouvèrent aussi un lourd médaillon que personne ne parvint à ouvrir, un bon nombre de sceaux anciens et enfin, dans une boîte poussiéreuse, une médaille de l'ordre de Merlin, première classe, qui avait été décernée au grand-père de Sirius pour service rendu au ministère.
Ça veut dire qu'il leur a donné un tas d'or, commenta Sirius avec mépris en jetant la médaille dans le sac. À plusieurs reprises, Créature se glissa dans la pièce et tenta d'emporter des objets en les dissimulant sous son pagne. Chaque fois qu'il se faisait prendre, on l'entendait marmonner d'épouvantables malédictions. Lorsque Sirius lui arracha un anneau d'or qui portait les armoiries des Blacks, Créature éclata en sanglots, furieux, et quitta la pièce en pleurant et en grommelant à l'adresse de son maître des injures que Harry n'avait encore jamais entendues.
« Cet anneau appartenait à mon père, » dit Sirius en l'expédiant dans le sac. « Créature ne lui était pas aussi dévouée qu'à ma mère. Mais je l'ai quand même surpris la semaine dernière en train de serrer contre lui un de ses vieux pantalons. »
Dans les jours qui suivirent, Mrs. Weasley continua à les faire travailler dur. Il fallut 3 jours pour assainir le salon. Finalement, il ne resta plus que 2 éléments indésirables. La tapisserie, représentant l'arbre généalogique de la famille Black, impossible à décrocher en dépit de tous leurs efforts, et le secrétaire qui continuait d'émettre des bruits suspects. Maugrey n'était pas encore repassé par le quartier général, il ne savait donc toujours pas avec certitude ce qui s'y cachait. Ils passèrent du salon à une salle à manger du rez-de-chaussée, où ils trouvèrent des araignées grandes comme des soucoupes cachées dans le buffet. Ron s'empressa de quitter la pièce pour aller faire du thé et ne revint qu'au bout 1h30. Sirius jeta sans cérémonie dans un sac poubelle la vaisselle de porcelaine qui portait les armoiries et la devise des Blacks. Le même sort frappa une série de photos anciennes conservées dans des cadres d'argent terni et dont les sujets poussèrent de petits cris aigus lorsque le verre qui les protégeait se brisa dans leur chute. Rogue pouvait toujours parler de nettoyage, mais aux yeux de Harry, il s'agissait en fait d'une véritable guerre menée contre la maison qui opposait une résistance acharnée, encouragée et soutenue par Créature. L'elfe ne cessait d'apparaître partout où il se trouvait, ses marmonnements devenant de plus en plus injurieux tandis qu'il s'efforçait d'arracher ce qu'il pouvait au sac poubelle. Sirius alla jusqu'à le menacer de lui donner un vêtement, mais Créature le fixa d'un regard larmoyant et dit «
Le maître fait ce que le maître désire !»
avant de tourner les talons en marmonnant d'une voix forte.
« Mais le maître ne renverra pas Créature, parce que Créature sait très bien ce qui se prépare. Oh oui, le maître complote contre le seigneur des ténèbres avec ses 100 de bourbe, ses traîtres, toute cette vermine !»
Sur quoi Sirius, sans prêter attention aux protestations d'Hermione, saisit Créature par son pagne et le jeta hors de la pièce. La cloche de la porte d'entrée retentissait plusieurs fois par jour. Chaque fois, la mère de Sirius se mettait à hurler et Harry et les autres se précipitaient pour essayer d'entendre ce que disait le visiteur. Mais ils n'arrivaient pas à glaner grand-chose des images fugitives et des bribes de conversation qu'ils surprenaient, car Mrs. Weasley les rappelait aussitôt à leur tâche. Rogue fit encore quelques allées et venues, mais au grand soulagement de Harry, ils ne se retrouvèrent jamais face à face. Harry aperçut également le professeur McGonagall qui enseignait la métamorphose à Poudlard. Elle était vêtue d'une robe et d'un manteau moldu qui lui donnait une allure très étrange et paraissait elle aussi trop occupée pour s'attarder dans la maison. Parfois cependant, l'un des visiteurs restait pour les aider. Ainsi, Tonks se joignit à eux lors d'un après-midi mémorable au cours duquel ils découvrirent une vieille goule meurtrière qui se cachait dans les toilettes du dernier étage. Lupin, qui habitait dans la maison avec Sirius, mais partait pendant de longues périodes pour accomplir de mystérieuses missions au service de l'ordre, les aida à réparer une horloge de grand-mère qui avait pris la désagréable habitude de jeter de gros boulons sur quiconque passait à proximité. Mondingus remonta légèrement dans l'estime de Mrs. Weasley en sauvant Ron de l'attaque d'une collection de vieilles robes pourpres qui avait essayé de l'étrangler lorsqu'il les avait sorties d'une armoire. En dépit d'un sommeil agité, toujours peuplé des mêmes rêves de couloirs et de portes verrouillées qui provoquaient des picotements le long de sa cicatrice, Harry, pour la première fois depuis le début de l'été, parvint à s'amuser un peu. Tant qu'il était occupé, il se sentait heureux, mais lorsque le rythme de ses activités se relâchait, lorsqu'il baissait la garde ou restait allongé sur son lit, épuisé à regarder passer des ombres au plafond, sa convocation au ministère lui revenait en tête. La peur lui perçait les entrailles comme des aiguilles quand il se demandait ce qui se passerait s'il était vraiment renvoyé de Poudlard.
C'était une idée si effrayante qu'il n'osait pas en parler à voix haute, pas même à Ron et à Hermione. Respectant ce silence, eux aussi s'abstenaient d'aborder le sujet, bien que Harry les vit parfois chuchoter tous les deux en lui jetant des regards inquiets. Par moments, son imagination lui montrait malgré lui un fonctionnaire sans visage qui cassait sa baguette en deux et lui ordonnait de retourner vivre chez les Dursley. Mais il n'obéirait pas. Il était décidé à rester ferme sur ce point. Il reviendrait ici, Square Grimord, pour vivre avec Sirius. Il eut l'impression qu'une brique lui tombait dans l'estomac lorsque le mercredi soir, pendant le dîner, Mrs. Weasley lui dit à voix basse
« Je t'ai repassé tes plus beaux habits pour demain matin, Harry, et je veux aussi que tu te laves les cheveux ce soir. Une première impression favorable peut faire des merveilles. »
Ron, Hermione, Fred, George et Ginny interrompirent leur conversation, le regard tourné vers lui. Harry acquiesça d'un signe de tête et s'efforça de finir sa côtelette, mais sa bouche était devenue si sèche qu'il n'arrivait plus à mâcher.
« Comment vais-je faire pour aller là-bas »
demanda-t-il à Mrs. Weasley en essayant de parler d'un ton détaché.
« Arthur va t'emmener avec lui en allant au bureau, »
dit-elle avec douceur. De l'autre côté de la table, M. Weasley lui adressa un sourire encourageant.
« Tu n'auras qu'à rester dans mon bureau en attendant l'heure de l'audience, » dit-il.
Harry jeta un coup d'œil à Sirius, mais avant qu'il ait pu poser la question, Mrs. Weasley y avait déjà répondu.
« Le professeur Dumbledore ne pense pas que ce soit une bonne idée pour Sirius de t'accompagner, et je dois dire qu'à mon avis... »«
Il a tout à fait raison, »
acheva Sirius les dents serrées. Mrs. Weasley pinça les lèvres.
« Quand est-ce que Dumbledore vous a dit ça ?» demanda Harry sans quitter Sirius des yeux.
« Il est passé hier soir, quand tu étais couché, »
répondit Mrs. Weasley.
Sirius donna un coup de fourchette rageur dans une pomme de terre. Harry baissa les yeux sur son assiette. À la pensée que Dumbledore se trouvait dans la maison la veille de sa convocation et qu'il n'ait pas demandé à le voir, Harry se sentit encore plus mal, si c'était possible.